Les maladies chroniques sont responsables du plus haut taux de mortalité dans le monde. On parle ici de 14 millions de décès par année sur la planète. Comment on peut arriver à mieux les prévenir, mais aussi à reconnaître les comportements qui nous mènent vers les maladies chroniques? On en parle avec Dr. Kim Lavoie. Bonjour, Dr. Lavoie.
Bonjour.
Vous êtes professeur au département de psychologie de l'UQAM et là aussi pour nous parler de cette nouvelle chaire de recherche de l'UQAM en médecine comportementale. On va y revenir, mais juste avant, bon, c'est énorme encore 14 millions de décès par année sur la planète à cause des maladies chroniques. Quelles sont les grandes maladies chroniques là, que l'on retrouve le plus souvent?
Bien, les deux plus gros, effectivement, c'est les maladies cardiovasculaires et les cancers. En troisième, et c'est très peu connu, c'est les maladies respiratoires chroniques comme qu'est-ce qu'on appelle la maladie pulmonaire obstructive chronique qui inclut l'emphysème et les bronchites chroniques. C'est troisième en cause de mortalité au Canada. Et bien sûr, il y a l'obésité qui n'est pas toujours considérée comme une maladie chronique comme les autres, mais bien sûr, c'est un facteur de risque important pour plusieurs de ces maladies-là, incluant la maladie cardiovasculaire, le cancer, le diabète, bien sûr. Alors, tout ça pour dire... une chose qui se ressemble, toutes ces maladies-là, c'est qu'est-ce que j'appelle des facteurs de risque de base qui sont des comportements.
Oui, c'est ça. Et les comportements, on les connaît, Dr. Lavoie. C'est souvent notre alimentation, l'activité physique ou plutôt la sédentarité, le tabagisme. On sait ça, mais comment ça se fait que l'on a encore parfois de mauvaises habitudes de vie?
Ben écoute, c'est un excellent point, Marianne. C'est quelque chose que je suis faire face à tous les jours dans mes séminaires et face à mes étudiants. En fait, c'est parce que pour changer une habitude de vie ou n'importe quoi, en fait, faut remplir trois critères qui sont essentiels. Et ça, c'est vrai pour tout, là, même chez vos enfants, vos ados, votre mari. Mm-hmm. Alors, faut coter ces trois critères-là. La première chose, faut que la personne reconnaisse qu'il y a un problème. Alors, faut qu'il y ait une reconnaissance, un awareness, si vous voulez, oui. Qu'il y a quelque chose à changer. Alors, par exemple, l'alcoolique qui ne reconnaît pas son alcoolisme ne va pas aller voir, va pas assister à une réunion AA.
Oui.
Deuxième critère, faut être motivé à changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas nécessairement être motivé à travailler pour changer, mais faut vouloir au moins les bénéfices en lien avec le changement.
Mm-hmm.
Alors, exemple, faut que ça soit important pour vous personnellement. Il faut que vous croyez que votre vie serait meilleure en changeant. Si la personne ne croit pas que la vie serait meilleure en changeant, bien, la motivation ne serait pas très élevée. Hein?
Mm-hmm.
Et troisièmement, il faut avoir la confiance dans notre capacité à changer. Alors, qu'est-ce qu'on observe souvent? Par exemple, chez les patients qui fument, les gens reconnaissent les dangers associés avec le tabac. Ils ont beaucoup de motivation en lien avec pourquoi arrêter de fumer et tout ça. Mais où ils s'accrochent, c'est la confiance parce qu'en moyenne, les gens ont essayé 7 fois puis ils n'ont jamais réussi. Et sans que vous êtes capable de coter les trois, ma prédiction en tant qu'experte comportementale, c'est qu'on ne va pas changer.
Donc, reconnaître le problème, la motivation, la confiance... Comment on peut, bon, ça et là, mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour aller vers le changement quand tout ça est coché, quand ces trois volets-là, on peut y répondre?
Bien, absolument. Et je pense que souvent, les gens recherchent qu'est-ce que j'appelle des traitements ou des potions magiques, mais dans le fond, c'est un petit peu du bon sens. C'est pas de tout à rien non plus. Il ne faut pas arrêter de consommer les glucides. Il ne faut pas arrêter de consommer le sucre. C'est vraiment, c'est plate à dire, mais c'est pas mal, tout en modération. Et peut-être une des gros mythes que peut-être je peux changer aujourd'hui, c'est le lien entre le poids, par exemple, on va prendre ça comme exemple, et la consommation de calories versus l'exercice. Alors, pour le poids, qu'est-ce qui compte pour le poids? C'est les calories.
Mm-hmm.
Alors, le poids, c'est le résultat de nos consommations en termes de calories et les dépenses énergétiques. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à aller au gym et tout ça comme stratégie pour perdre du poids. Mais c'est tout simplement pas une stratégie efficace pour plusieurs raisons. Entre autres, ça prend trop longtemps de dépenser notre Big Mac que juste... C'est une meilleure stratégie, c'est juste d'éviter le Big Mac.
Voilà.
À titre d'exemple, un repas chez McDo, un trio par exemple, ça vaut avec un petit dessert autour de 2000 calories. Pour une femme qui pèse à peu près 130 livres, elle va devoir courir 5 heures sur un tapis roulant à son maximum pour brûler ce repas-là. Alors, c'est beaucoup plus facile de prendre un choix plus optimal. Alors, tout ça pour dire, pour la santé, l'activité physique, ça nous aide, bien sûr, pour se maintenir en bonne santé, mais comme stratégie pour perdre le poids, c'est pas celui à privilégier. Ça nous aide, par contre, à maintenir le poids. On peut se permettre un peu plus avec ça, mais je trouve que souvent, les gens confondent la perte du poids avec être en meilleure santé.
Oui. Les gens confondent parce que l'information qui circule n'est peut-être pas toujours juste. Et ça, c'est un autre cheval de bataille pour arriver à changer les habitudes de vie, mais de façon efficiente.
Ah, tout à fait. Et je pense qu'avec, on était à l'âge de l'Internet, accès à l'information, mais on a autant accès à la mauvaise information qu'à
Oui.
accès à la bonne. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on voit sur l'Internet. C'est sûr que j'encourage les gens à écouter leur médecin. Il y a certaines sites qui sont plus fiables que d'autres. Si jamais les gens s'intéressent à une bonne site pour voir, ben en termes d'informations en lien avec la santé, la bouffe et tout ça, nutritiondata.com, ça contient toutes les informations qu'on peut avoir besoin en lien avec l'alimentation et tout. Mais tout ça pour dire, pour se maintenir en bonne santé et pour prévenir toutes ces maladies-là, c'est très simple. Numéro un, faut éviter fumer à tout prix. Je pense que ça reste quand même le comportement de la santé le plus néfaste pour la santé pour plusieurs maladies. Il y a encore 20% des Canadiens qui fument. C'est la cause majeure de maladies pulmonaires obstructives chroniques, les cancers. Si je vous demande, Marianne, c'est quoi le cancer le plus prévalent chez les femmes? Vous me direz quoi?
Cancer du sein.
Non, c'est pas le cancer du sein, justement, c'est le cancer des poumons.
Ah oui.
Pourquoi? À cause du tabac. OK?
Bien oui.
Et même la maladie la plus mortelle pour les femmes, c'est non plus le cancer, c'est le trouble cardiaque. Alors ça pour dire, on n'est pas protégé comparativement aux hommes. Et tant qu'on se comporte de la même façon que des hommes, et ça devient de plus en plus ça, ben on commence à mourir de leur maladie, hein.
Docteur Lavoie, il reste qu'une minute. On a parlé du tabac. J'imagine que vous voulez parler aussi de sédentarité et également d'alimentation. C'est important, ça.
Absolument. Et c'est vraiment de manger équilibré, autant que possible remplir votre assiette avec des fruits et légumes, éviter ajouter le sucre dans votre régime. Un petit truc que j'ai donné à ma classe ce matin, c'est autant que possible éviter des boissons qui contiennent beaucoup de calories, parce
Voilà.
que c'est une source de calories qu'on n'en tire pas compte,
Tout
hein?
à fait. Docteur Kim Lavoie, on vous souhaite bonne chance dans votre nouveau rôle à la tête de la nouvelle chaire de recherche en médecine comportementale de l'UQAM. Je rappelle, vous êtes professeur au département de psychologie aussi à cette université. Merci beaucoup de nous avoir aidés à peut-être modifier nos comportements pour aller vers une meilleure santé globale.
Ben, je vous remercie. Bonne journée.
Au revoir.